Polaris est une nouvelle de Lovecraft où le narrateur bascule dans le monde des rêves. L'inversion des mondes est rendue possible grâce à l'étoile polaire, véritable porte céleste.
À travers la fenêtre de ma chambre, l'étoile polaire brillait d'une étrange lueur. Pendant les longues heures infernales des ténèbres, elle étincelle. Et en automne, lorsque les vents mugissent avec rage, lorsque les arbres du marécage, au feuillage rougeâtre, bruissent dans le petit matin, alors que la corne lunaire s'estompe, je m'assieds près de la croisée pour mieux la contempler. Tombant de la voûte céleste, l'aura de la scintillante Cassiopée vacille au fil des minutes, tandis que Charles Wayne, le bûcheron, commence à travailler au milieu de la brume du marais. Juste avant l'aurore, Arcturus clignote sur le cimetière, et au loin, Coma Berenices luit singulièrement dans l'est mystérieux. La polaire, elle, darde ses rayons cendrés et froids sur la terre, clignant hideusement, comme un œil fou qui essaye de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il y avait un message à remettre. Quelquefois, quand le ciel est nuageux, je dors. Je me rappelle la nuit de la grande aurore, lorsque les reflets de cette lumière démoniaque jouaient sur la fondrière. Un passage de lourds nuages en masqua les rayons, et je m'endormis. Ce fut ce jour-là, avec le dernier halo d'un croissant de lune sur le point de basculer dans l'infini, que j'aperçus pour la première fois la cité. Elle reposait, sereine et engourdie, sur un curieux plateau, situé au creux d'un vallon, lui-même entouré de pics insolites. Ses murs, ses tours, ses colonnes, ses dômes et ses trottoirs étaient en marbre blafard. Dans les rues de marbre, des piliers de marbre portaient sur leur partie supérieure des gravures d'hommes barbus au visage austère. L'air était léger, immobile et chaud. À peine à 10 degrés au-dessus du zénith, luisait l'étoile polaire. Longtemps j'observais la ville, mais le jour ne se leva point. Après que la rougeoyante Aldébaran, qui chatoyait bas dans le ciel mais ne se couchait pas, eut accompli un quart de sa route autour de l'horizon, je vis de la lumière et de l'animation dans les maisons et dans les rues. Des silhouettes bizarrement drapées, empreintes d'une grande noblesse, qui se firent immédiatement familières, circulaient sous la pâle lumière de l'astre lunaire déclinant. Elles s'exprimaient avec sagacité dans un idiome que je comprenais, bien qu'il ne ressemblât à aucune des langues que je connaissais. Et quand la rougeoyante Aldébaran eut accompli plus de la moitié de sa route autour de l'horizon, l'obscurité et le silence retombèrent. Lorsque je m'éveillais, je n'étais plus le même. Ma mémoire avait conservé la vision de la cité et mon âme s'en était faite un souvenir vague dont la nature m'était incertaine. Par la suite, quand les nuits brumeuses me laissaient dormir, je revis souvent la cité. Quelquefois, elle m'apparaissait sous les rayons chauds et dorés d'un soleil qui lui non plus ne se couchait pas, mais tournait lentement autour de l'horizon. Par les nuits claires, l'étoile polaire dardait plus que jamais son faisceau lumineux. Graduellement, j'en vins à me demander quelle serait ma place dans cette ville mystérieuse, sur cet étrange plateau perdu au milieu d'étranges pics. Au début, je me contentais d'observer la scène en spectateur intemporel, mais maintenant je désirais m'intégrer à la vie de la cité et donner mon avis, tout comme ses habitants, des hommes graves, qui chaque jour réglaient leurs affaires dans les bars ou sur les places publiques. J'en arrivais même à penser que ce n'était pas un rêve. Car pourquoi cette maison de pierres et de briques, située au sommet de la colline, entre un sinistre marécage et un vieux cimetière, serait-elle plus réelle que la cité? L'étoile polaire n'entrait-elle pas chaque soir par la fenêtre de ma chambre? Une nuit, alors que j'écoutais une conversation qui se déroulait dans un grand parc plein de statues, je perçus un changement, et je réalisais que j'étais enfin physiquement présent dans la ville. Je ne venais plus en étranger sur le plateau de Sarkia, entre les pics Noton et Kadipvanek, dans les rues d'Olathoe. Mon ami Alos avait pris la parole et son discours plut à mon âme. C'était celui d'un homme courageux et d'un véritable patriote. Cette nuit-là, Daikos avait été destitué et les Inutos recommençaient les hostilités. 5 ans auparavant, ces infernaux petits êtres jaunes et courteaux étaient venus de l'ouest inconnu jusqu'aux confins du royaume pour assiéger plusieurs de nos villes. Ils étaient au pied de la montagne, occupant déjà les places fortifiées qui défendaient l'accès du plateau. À moins que chacun d'entre nous n'opposât aux envahisseurs la résistance de 10 hommes, nous étions perdus. Ces êtres rabougris étaient passés maîtres dans l'art de la guerre. Ils n'avaient pas évidemment les mêmes scrupules que nos grands hommes aux yeux gris de l'Omar à l'égard des conquêtes brutales. Alos, mon ami, commandait toutes les forces du plateau et c'est sur lui que reposait l'avenir de notre pays. À cette occasion, il évoqua les dangers qu'il faudrait affronter et il exhorta les hommes de la Toé à se montrer aussi courageux que leurs ancêtres, les vaillants Lomariens, qui avaient victorieusement balayé les Gnopfki, cannibales aux grands bras et à la longue chevelure, lorsqu'ils avaient été forcés d'évacuer Zobna vers le sud devant la progression d'une nappe de glace géante. Alos me refusa le droit de me battre aux côtés de ses guerriers. Il savait que j'étais faible et enclin à d'étranges malaises lorsque j'étais soumis à des efforts et à des privations. Comme j'avais les yeux les plus perçants de la ville, et ce malgré les longues heures que je passais chaque jour à étudier les manuscrits gnakotiques et les écrits philosophiques des pères omnariens, mon ami, qui ne voulait pas me condamner à l'inaction, se reposa sur moi d'une tâche de la plus haute importance. Il m'envoya comme vigie à la tour de guet de Tapnen. Si les Inutos essayaient de surprendre la garnison de la citadelle par le col du pic de Noton, je devais donner le signal de tir à nos soldats, qui sauveraient ainsi la ville d'un désastre immédiat. J'étais seul dans la tour, car chaque homme valide était requis à la défense des cols. Mon cœur me faisait mal à force d'excitation, et je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours de fatigue. J'aimais l'Omar, le pays qui m'avait vu naître, et Olathoe, la cité de marbre, entre les pics Noton et Kadipvanek. J'étais fermement décidé à assumer toutes mes responsabilités. Mais pendant que je me tenais à l'affût, dans la chambre du sommet de la tour, j'aperçus la corne lunaire avant son ultime déclin, rouge et sinistre, tremblotante à travers les vapeurs qui stagnaient au-dessus de la lointaine vallée de Banoff. Par une ouverture du toit, la pâle et scintillante étoile polaire se mit à frémir, comme si elle était vivante, et à me provoquer comme un démon tentateur. Il me semblait qu'elle me murmurait de mauvais conseils, m'enjoignant sur un rythme démoniaque de m'enfoncer dans une somnolence traîtresse à l'aide de cette litanie. Endors-toi, guetteur, jusqu'à ce que les astres aient tourné pendant 26 000 ans. Alors, je reviendrai à l'endroit d'où je brûle en ce moment. D'autres étoiles se lèveront dans l'axe céleste, des étoiles qui apaisent et des étoiles qui bénissent avec une douce miséricorde. C'est seulement lorsque j'aurai terminé mon périple que le passé viendra frapper à la porte. Je luttais contre cette incoercible envie de dormir, essayant en vain de trouver dans les manuscrits gnakotiques sur la science céleste un sens à ces étranges paroles. Ma tête, lourde et oscillante, tomba sur ma poitrine, et quand j'ouvris à nouveau les yeux, j'étais dans un rêve. Par-dessus les arbres horribles et mouvants d'un marécage de cauchemars, l'étoile polaire, à travers la fenêtre, me fixait avec un effrayant rictus. Mon rêve ne finit pas. Parfois, je hurle frénétiquement de honte et de désespoir, suppliant les créatures de rêve qui m'entourent de me réveiller avant que les Inutos ne franchissent le col de Noton pour prendre la citadelle par surprise. Mais ces créatures sont des démons. Elles me disent que je ne rêve pas, Elles se moquent de moi. Elles me tournent en dérision pendant mon sommeil, tandis que l'ennemi jaunâtre et rabougri s'infiltre silencieusement dans nos lignes. J'ai failli à mon devoir et j'ai livré la cité de marbre d'Olatoé. J'ai trahi Alos, mon ami, mon chef. Et pourtant, ces ombres amies continuent à se gausser de moi. Elles m'affirment que le pays de Loma n'existe nulle part ailleurs que dans mon imagination ténébreuse, que, dans ces contrées où l'étoile polaire brille haut dans le ciel et où la rouge Aldébaran se déplace bas sur l'horizon, il n'y a jamais eu que de la glace et de la neige au cours des derniers millénaires, et aucun homme, si ce ne sont des créatures jaunâtres et rabougries, flétries par le froid, qu'on appelle des Esquimaux. Et pendant que je me tords dans les affres de la culpabilité, essayant convulsivement de sauver la cité pour laquelle le péril augmente d'une minute à l'autre, luttant sans espoir pour me débarrasser du rêve de la maison de pierres et de briques située sur la colline entre un sinistre marécage et un cimetière, l'étoile polaire, diabolique et monstrueuse, darde de la voûte ténébreuse ses rayons cendrés et froids, clignant hideusement comme un œil fou qui essaye de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il y avait un message à transmettre.